VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Tatiana Mosso en direct du studio 13 de la Voix de l'Amérique. Il est 17h30 en temps universel et vous écoutez Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de ce lundi 31 mars 2017. RDC, la vie tourne au ralenti à Kinshasa et Lumumbashi suite au mot d'ordre de ville morte lancé par l'opposition. Aux États-Unis, Donald Trump reçoit le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Et puis en Russie, une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg qui a fait au moins 10 morts. Et puis nous nous pencherons en partie magazine sur le racisme et les attaques xénophobes en Inde. Les ambassades africaines fustigent l'attitude de New Delhi. À suivre tout cela après votre journal, l'économie et les sports. Bienvenue, chers auditeurs, et merci pour votre fidélité. Les activités étaient paralysées dans plusieurs villes de la RDC ce lundi 3 avril dans la matinée. Cela fait suite au mot d'ordre de ville morte lancé par le rassemblement plateforme de l'opposition pour exiger l'application de l'accord du 31 décembre 2017. On fait le point avec Thierry Kabundi de Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
École, bureaux, magasins, boutiques et autres commerces fermés, circulation des véhicules à peine visible sur la chaussée, c'est le visage qu'a affiché la ville de Kinshasa le matin de ce lundi 3 avril 2017. Même certains services de l'État ont eu du mal à ouvrir. Ceux qui ont ouvert ont reçu moins de monde que d'habitude. Les activités ont tourné au ralenti dans la matinée également à Mbujima et à Kananga dans le Grand Kasaï, ainsi qu'à Matadi dans le Congo central où le port, principale attraction commerciale de la ville, était paralysé. À l'est par contre, l'appel à la ville morte du rassemblement a été diversement suivi. Si à Goma et à Bukavu tout a quasiment tourné normalement, les activités étaient cependant paralysées dans la matinée à Beni et à Butembo où seules quelques banques et stations-service ont ouvert. Lubumbashi, quant à elle, n'a pas suivi le mot d'ordre de l'opposition. La plupart des magasins et marchés ont ouvert comme à l'accoutumée et le transport en commun était visible dans la ville. Kinshasa, Thierry Kambundi de Top Congo FM pour VOA Afrique.
Et toujours en RDC, des enquêteurs de l'ONU ont découvert 13 nouvelles fosses communes dans le centre du pays où des violences meurtrières opposent les forces de l'ordre et une milice depuis septembre. Le 22 mars, des enquêteurs onusiens avaient dénombré 10 fosses liées à ces violences entre les forces de l'ordre et les miliciens de Kwame Natsapu dans le Kasaï qui ont déjà fait au moins 400 morts, dont deux enquêteurs de l'ONU enlevés le mois dernier. Né en Gambie, c'est le dernier jour de la campagne électorale pour les élections législatives du 6 avril. Elles seront les premières depuis la chute de Yahya Jammeh qui avait dirigé ce petit pays d'Afrique de l'Ouest d'une poigne de fer pendant plus de 22 ans. Les principaux partis d'opposition d'Afrique du Sud se sont réunis lundi pour réclamer l'organisation d'un vote de défiance au Parlement contre le président Jacob Zuma après son remaniement ministériel controversé qui a coûté son poste au respecté ministre des Finances Pravin Gordhan. Et puis les diplomates de 44 pays africains ont accusé lundi l'Inde de ne pas prendre les mesures nécessaires face aux agressions racistes répétées contre les Africains. Solange Niamouliza nous en dit plus.
Une semaine après l'agression d'étudiants nigériens près de New Delhi, les ambassadeurs africains ont accusé le gouvernement indien de ne pas suffisamment condamner ces attaques à caractère xénophobe et raciste. Les chefs des représentations africaines ont appelé à une enquête indépendante menée par des groupes de défense des droits de l'homme, dont le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Les vidéos de certains incidents ont été diffusées sur les réseaux sociaux et ont déclenché un tollé mondial. La police a arrêté 6 suspects pour ces violences auxquelles des centaines de personnes avaient pris part. Les Africains en Inde, dont de nombreux étudiants, font régulièrement objet des vexations et d'humiliations. L'an dernier, un jeune Congolais avait été tué à coups de pierre et de briques à New Delhi après une querelle pour un taxi rickshaw.
Des pirates somaliens se sont emparés d'un bateau indien comptant 11 membres d'équipage. La troisième attaque du genre en moins d'un mois, a-t-on appris lundi auprès du propriétaire du navire et d'une source sécuritaire somalienne. Le Al-Kosar convoyait des denrées alimentaires de Dubaï vers le port de Bosaso, dans le nord-est de la Somalie. Des responsables de la sécurité et du renseignement d'une trentaine de pays africains se sont réunis lundi dans la capitale soudanaise pour évoquer la lutte contre les djihadistes, une menace grande. grandissante sur le continent. Selon un haut responsable de la sécurité présent à la conférence, des milliers de jeunes Africains qui ont rejoint des organisations djihadistes comme le groupe État islamique représentent une menace réelle pour leur pays d'origine. L'armée égyptienne a annoncé, elle, dimanche avoir tué dans un récent raid aérien Abu Anas al-Ansari, un des cadres fondateurs de la branche du groupe État islamique dans le nord du Sinaï. Et puis les camps de détention de migrants d'Afrique subsaharienne en Libye sont essentiellement des hangars à humains, a jugé lundi à Rome le directeur général de Médecins sans frontières Pays-Bas. De retour de mission, il a appelé à les sortir de là. Son ONG fournit une assistance médicale dans des centres placé sous le contrôle du gouvernement d'Union à Tripoli, mais de facto aux mains de milices avec lesquelles il faut sans cesse négocier les conditions d'accès.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait 10 morts et de nombreux blessés. Les autorités russes ne disent pas écarter la piste terroriste. Anastasie Tudiach fait le point pour nous.
Le président Vladimir Poutine, qui se trouvait à Saint-Pétersbourg, a présenté ses condoléances aux familles des victimes. « Nous étudions toutes les éventualités, accidentelles, criminelles et, avant tout, une action à caractère terroriste », a ajouté le président russe. Des enquêteurs sont déjà sur place. L'explosion a eu lieu dans une rame qui se trouvait entre deux stations dans le sud-est de la ville. La totalité des stations de métro ont été fermées. Le groupe État islamique avait appelé à frapper la Russie après le début de son intervention pour soutenir les forces de Bachar al-Assad en Syrie. Depuis, le pays a été victime de plusieurs attaques, toutes situées au sein des républiques russes du Caucase. Les services de sécurité russes ont annoncé à plusieurs reprises avoir démantelé des cellules djihadistes qui s'apprêtaient à frapper Moscou et Saint-Pétersbourg.
Une seconde bombe artisanale a été retrouvée justement dans une station du métro de Saint-Pétersbourg. Elle a été découverte et désamorcée à temps. Une enquête pour terrorisme a été ouverte. Et puis le président américain Donald Trump a rendu un hommage appuyé à son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi, qui était en visite à la Maison-Blanche ce lundi. Il juge qu'il faisait un travail fantastique dans des conditions difficiles. Ce sont les mots du président américain. Plus de précisions avec Claire Morin-Gibourg. Alors, le papier de Claire Morin-Gibourg n'est pas encore prêt et justement avec le président américain, on va revenir sur Jared Kushner, son gendre et proche collaborateur du président donc Donald Trump, qui est arrivé lundi en Irak où il doit rencontrer des responsables irakiens et examiner l'avancée de la lutte contre le groupe État islamique. Cette visite intervient alors que les forces irakiennes ont lancé le 19 février une offensive pour reprendre la partie ouest de Mossoul, dernier grand bastion djihadiste. Et puis je vous le disais, le président égyptien est actuellement en visite à Washington. Nous sommes clairement derrière le président Sissi, nous sommes clairement derrière l'Égypte et le peuple égyptien, a déclaré Donald Trump depuis le bureau ovale, en recevant donc son homologue égyptien qui effectuait là sa première visite à la Maison-Blanche. Le président américain n'a pas évoqué la question des violations des droits de l'homme et de la liberté de la presse, qui était régulièrement soulevé par l'administration de Barack Obama. Assis à ses côtés, le président égyptien a exprimé son admiration pour la personnalité du nouveau locataire de la Maison-Blanche. Il a également tenu des propos qui étaient traduits par un interprète et il a affiché sa volonté de travailler avec le président américain sur une stratégie efficace de lutte contre le terrorisme. L'administration Obama avait gelé son aide militaire à l'Égypte en 2013 après la destitution du président islamiste Mohamed Morsi de l'Égypte, pays arabe le plus peuplé, qui avait poussé la Maison-Blanche à infléchir sa position en 2015. Et puis nous prenons la direction de l'Europe avec la première ministre Theresa May qui a rencontré lundi à Amman le roi de Jordanie lors de la première étape d'un voyage qui doit la mener en Arabie Saoudite pour évoquer la sécurité et le commerce. Elle devrait annoncer l'envoi de formateurs militaires britanniques pour aider l'aviation jordanienne à améliorer sa capacité à frapper le groupe État islamique dans la région. Et un dernier rappel de titre sur justement cet attentat qui a eu lieu à Saint-Pétersbourg. Je vous le rappelle, une explosion dans le métro de Saint-Pétersbourg a fait 10 morts et de nombreux blessés. Plus de nouvelles dans les prochaines éditions. Une seconde bombe a, elle, été désamorcée et découverte dans une autre station. Vous êtes toujours dans Le Monde aujourd'hui. On va passer à la Minute Éco, votre rendez-vous habituel avec cette semaine Jacques Aristide aux manettes.
Le président nigérien Mahamadou Issoufou a inauguré hier, près de Niamey, une centrale électrique diesel qui devrait réduire les fréquentes coupures d'électricité dans la capitale. Au coût de quelque 80 milliards de francs CFA, la nouvelle centrale produira 80 mégawatts dans une première phase, puis 100 mégawatts à terme. D'après la société nigérienne d'électricité, riche en uranium, le Niger importe depuis plusieurs décennies l'essentiel de son électricité du Nigeria, avec des perturbations pouvant priver Niamey de courant pendant des journées entières. Au Maroc, les travaux viennent de démarrer pour compléter le projet Nour, une gigantesque station solaire près de Ouarzazate, aux portes du désert. La centrale, au coût de 75 millions de dollars environ, aura une capacité de production de 72 mégawatts, pouvant subvenir aux besoins de 17 000 foyers. Elle produira de l'énergie électrique directement à partir du rayonnement solaire. Après une légère régression, l'économie mauricienne doit connaître une croissance de 3,8% cette année grâce à un rebond dans les secteurs manufacturiers et de la construction. D'après l'Institut mauricien des statistiques, ce sont le textile et l'agroalimentaire qui devraient stimuler l'industrie manufacturière, alors que les investissements publics et privés soutiendraient la construction.
Et on retrouve tout de suite les sports avec vous, Nicolas Pineau. Bonsoir, Nicolas.
Bonsoir, Tatiana. Bonsoir à tous.
Hugo Brousse, convoqué par le gouvernement camerounais.
L'organisation, ou plutôt la désorganisation des Lions Indomptables, tournerait-elle à l'affaire d'État au Cameroun suite aux déclarations? Après la défaite face à la Guinée 2-1, le sélectionneur Hugo Brousse va entendre ses oreilles siffler ce lundi puisqu'il y a une réunion en cours du comité exécutif de la FECAFOOT, la Fédération Camerounaise de Football. On se souvient que le technicien belge qui avait dénoncé l'incompétence de certains encadrants et évoqué la possibilité de quitter son poste. Affaire à suivre.
On reste au Cameroun avec cette bonne nouvelle pour Rigobert Song.
Retour au bercail et en parfait état de santé pour le footballeur camerounais Rigobert Song. En octobre dernier, souvenez-vous, l'ex-capitaine des Lions Indomptables avait été victime d'un accident vasculaire cérébral ayant nécessité une évacuation sanitaire en France. Après 7 mois, il a retrouvé son pays natal où de nombreux fans sont venus l'accueillir à l'aéroport de Yaoundé. C'était samedi dernier.
Football côté justice et on reparle corruption à la FIFA.
L'ancien patron du foot guatémaltèque, Brian Jiménez, a écopé d'une suspension à vie pour son implication dans le scandale de corruption de la FIFA. Décision de la chambre de jugement de la commission d'éthique de l'instance mondiale du football. L'ancien président de la fédération guatémaltèque, âgé de 62 ans, a plaidé coupable notamment des chefs de conspiration en vue d'extorsion de fraude en lien avec des pots de vin reçus en échange de l'octroi des droits médias et marketing portant sur des matchs de qualification de l'équipe du Guatemala pour les Coupes du Monde 2018 et 2020. 22.
Dopage, une substance interdite découverte dans les urines de sprinteurs jamaïcains de Pékin 2008.
L'Agence mondiale antidopage critique le CO et l'AMA pour n'avoir pas enquêté après la découverte de clambutérol, un produit interdit dans des échantillons d'urine de sprinteurs jamaïcains lors des Jeux olympiques 2008. C'était à Pékin. Le Comité international olympique et l'Agence mondiale antidopage ont reconnu avoir classé ces cas en raison de faibles dosages, attribuant cette présence du clambutérol à une probable consommation de viande contaminée. Les sprinteurs jamaïcains emmenés par Usain Bolt au sommet de son art avaient remporté 5 médailles d'or à Pékin. Les vainqueurs du relais 4x100 mètres masculins, dont Bolt, ont cependant dû rendre en janvier leur médaille d'or après le test positif de l'un d'entre eux, Nesta Carter, à un stimulant, et ce 8 ans après les Jeux.
Et on clôt avec la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Golden State a aligné une 11e victoire consécutive en écrasant Washington 139-115 hier grâce à sa star Stephen Curry en grande forme à deux semaines du début des playoffs. Les Warriors ont une avance de plus de 3 victoires sur leurs dauphins et grands rivaux de San Antonio, vainqueur hier de Utah 109-103.
Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, de retour avec vous Tatiana Mosso, toujours dans le studio 13. Place à nos dossiers du jour en direct avec 7 jours de débat. Les travaux de la conférence d'entente nationale se sont achevés le dimanche 2 avril au Mali. À la fin des travaux, un rapport a été remis au président Ibeka et il a décidé de mettre en place un comité de sages pour trancher définitivement la question de l'Azawad et examiner la situation du conflit, au centre du pays. Les précisions de Kassim Traoré.
Ça a été une semaine de débats, d'échanges autour de l'unité nationale, la réconciliation et la paix. Aliou Nioun Diallo, ancien président de l'Assemblée nationale du Mali.
Il faut réellement qu'on réfléchisse beaucoup et qu'on n'aigrisse pas des choses pour nous faire plaisir. Toujours on croit que quand on dit appliquer, c'est seulement le gouvernement. Qui empêche aujourd'hui l'application, ce sont les groupes armés. Évitons de nous raconter des histoires.
Hésitante au début des travaux, l'opposition malienne a fini par rejoindre le train de l'entente nationale avec sa proposition. Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition malienne.
Seule solution pacifique, viable et inclusive de résolution de la crise multiforme que connaît notre pays passe par la tenue d'une concertation nationale inclusive autour des problèmes institutionnels de défense, de sécurité, de gouvernance et de développement.
La conférence d'entente nationale a évoqué aussi la question de l'Azawad. Noum Sangaré, rapporteur général de la conférence.
Le terme de l'Azawad ne renvoie plus à un projet politique. Deuxième chose, c'est que l'appellation Azawad au plan administratif ne peut englober toutes les régions dites du Nord. Par contre, la conférence a reconnu que l'appellation Azawad recouvre une réalité socioculturelle, mémorielle et symbolique partagée par certaines populations du Nord du Mali.
La CEMA n'a pas caché sa colère.
Je relève dans ses rapports qu'il n'a pas été fidèle. Quand on dit qu'il a été arrêté consensuellement que l'Azawad devrait être une entité géographique, une réalité mémorielle, ça c'est des acquis de l'accord d'Alger de 2015. Si on veut la paix, tant que l'Azawad n'a pas un statut juridique et politique, il n'y aura pas de paix.
Le président Ibrahim Boubacar Keïta a reçu le rapport lors de la cérémonie de clôture. Pour lui, la question de l'Azawad n'a pas été tranchée. Il souhaite aussi que la situation conflictuelle au centre du pays soit examinée par un comité d'experts qui sera mis en place bientôt.
La bataille pour la paix, nous continuerons avec tous les frères. Sans complexe aucun, tel n'est pas le luxe qui m'est permis aujourd'hui. Je m'adresserai à chacun et à chacune pour que chacun et chacune puisse apporter la pierre, l'étincelle de son intelligence, sa contribution pour que l'œuvre commune arrive à bon port.
L'équipe qui a organisé la conférence d'entente nationale restera sur place jusqu'à l'élaboration de la charte nationale pour l'unité et la paix. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVOA Afrique, 24h sur 24.
44 diplomates africains basés en Inde accusent le gouvernement indien de ne pas prendre les mesures nécessaires pour faire face aux attaques à caractère racial visant la communauté africaine dans ce pays. Cette réaction est intervenue aujourd'hui après qu'une dernière attaque survenue il y a quelques jours dans la banlieue de New Delhi contre les Nigérians continue de susciter l'indignation sur les réseaux sociaux. Écoutons l'analyse de Boubacar Sey, président de l'association Horizons sans frontières basée à Dakar.
La gestion scandaleuse du triptyque immigration, paix et sécurité continue encore de faire des victimes, en Inde notamment, avec ces attaques devenues récurrentes sur les ressortissants africains. Horizons sans frontières dénonce effectivement ces violations des droits humains, notamment des articles 3 et 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le droit à la vie est sacré. C'est la raison pour laquelle Horizon Sans Frontières exhorte les autorités indiennes à veiller à la sécurité et à l'intégrité physique de ces Africains.
Ce n'est pas la première fois que les diplomates africains dénoncent le manque de réactivité du gouvernement indien. Est-ce que vous pensez que cette fois-ci, le rappel sera entendu?
Oui, mais bien sûr, il faudrait aller même au-delà du rappel. Il faudrait que le gouvernement indien prenne ses responsabilités. Il y a eu beaucoup de laxisme qui a été noté et dénoncé dans la gestion des flux migratoires en Inde. Donc aujourd'hui, nous appelons au sens de l'honneur et de la responsabilité. Il faudrait que ça cesse. Cette spirale de violence aujourd'hui sur les ressources africaines doit cesser impérativement. Sinon, nous allons passer à la vitesse supérieure.
Qu'est-ce que vous appelez la vitesse supérieure?
Oui, mais il faut dénoncer, il faut porter plainte parce que ces attaques sont devenues récurrentes. Il y a un laxisme total. Il faut que les autorités indiennes prennent leurs responsabilités, renforcent les processus d'intégration. Je rappelle qu'on ne peut pas parler d'immigration sans intégration. Et l'intégration devrait être un processus à double sens qui lie les migrants aux citoyens autochtones dans une relation constructive aboutissant sur le respect et la tolérance mutuelle.
Pour ce qui est des gouvernements africains, qu'est-ce qu'ils devraient faire à votre avis?
Malheureusement, nous l'avions toujours dénoncé, il y a une faiblesse des diplomaties africaines aujourd'hui sur la gestion de ces flux-là. Les Africains, vu ce contexte géopolitique prétendu miné par la xénophobie, le racisme, les discours populistes, l'Afrique brille par son absence en ce qui concerne aujourd'hui la protection de ces ressortissants à l'étranger. Je crois qu'il faudrait une harmonisation des positions en vue d'une diplomatie à la hauteur des enjeux géopolitiques et géoéconomiques. Sinon, malheureusement, nous allons toujours vivre ce genre de situation.
Après 4 ans de relations tendues avec l'administration Obama, le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a rencontré aujourd'hui à Washington son homologue américain Donald Trump, qui, contrairement à son prédécesseur, ne cache pas son admiration pour l'Égyptien. Les deux hommes souhaitent insuffler un nouvel élan aux relations entre les deux pays. Salwa Jafari a contacté Jean Marcou, il est professeur, chercheur spécialiste du Moyen-Orient.
Je pense qu'on va surtout parler de dossiers stratégiques, c'est-à-dire le positionnement de l'Égypte, notamment au Moyen-Orient et dans la guerre contre Daesh, le rôle que l'Égypte peut jouer dans la résolution, les tentatives de résolution du conflit entre Israéliens et Palestiniens, le positionnement aussi de l'Égypte par rapport à l'Arabie Saoudite. Hein. Les experts ont dit que apparemment l'administration américaine jouait un jeu à plusieurs bandes, c'est-à-dire essayait d'entrer en contact avec l'Égypte, d'améliorer ses relations avec l'Égypte pour rétablir de bonnes relations avec l'Arabie Saoudite.
Alors, vous l'avez dit, l'ancien locataire de la Maison Blanche, Barack Obama, témoignait peu d'égard envers Sisi. L'aide militaire américaine de 1,3 milliard de dollars par an avait même été temporairement suspendue. Aujourd'hui, le président Trump menace de réduire les aides internationales. Va-t-il faire une exception à votre avis?
Eh bien, on va voir, justement. A priori, la rhétorique est pour l'instant très bonne parce que le président Trump était allé en Égypte l'année dernière avant son élection et il avait qualifié Abdel Fattah al-Sissi de type fantastique. Après, il faut voir effectivement si, comme on dit en français, si l'intendance suit et si finalement cela amènera un rétablissement, voire une augmentation de l'aide américaine. D'un autre côté, il faut voir qu'à l'heure actuelle, pendant longtemps, l'aide américaine a été l'une des rentes de cette économie égyptienne en permanence déficiente. Aujourd'hui, cette économie est plus déficiente que jamais, mais elle a des prêteurs, enfin elle a des pourvoyeurs financiers qui sont considérables. Dans les pays du Golfe, à l'heure actuelle, qui maintiennent l'Égypte à flot avec des contributions qui avoisinent plus de 16 milliards de dollars, alors même que l'aide américaine est de 1 à 2 milliards.
C'était Jean Marcou, il est professeur chercheur spécialiste du Moyen-Orient. Il était joint par Salwa Jafari.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Une Congolaise et une Nigérienne parmi les lauréates 2017 du prix international Femmes de Courage, attribué chaque année par le département d'État américain. La jeune militante congolaise Rebecca Kabougo et le major Aïchatou Issaka Ousmane ont reçu leur récompense des mains de la nouvelle première dame Melania Trump. Nathalie Barge.
Considérée comme la plus jeune prisonnière de conscience du monde, Rebecca Kabougo n'avait que 21 ans lors de sa première arrestation en RDC. En février 2016, elle et cinq de ses camarades ont été arrêtés et condamnés pour incitation à la désobéissance civile. Les six membres de la Lucha ont passé 6 mois en prison à Goma.
Ça fait mal, oui, la prison. Il y a des moments où on se sent un peu seul. Mais quand tu penses à la grandeur du Congo, cette population qui est en train de souffrir chaque jour et que tu t'es engagé à faire la lutte, moi, je me sentais un peu soulagée.
Le 19 décembre, Rebecca et 18 autres militants ont été de nouveau arrêtés et libérés une semaine plus tard. Plus déterminée que jamais, elle a déclaré à la Voix de l'Amérique qu'elle ne baissera jamais les bras face aux politiciens.
C'est à nous, la population, de prendre notre destin en main. C'est à moi, c'est à quelqu'un d'autre qui vit cette répression, de se mettre en tête que c'est lui le changement. C'est lui qui doit faire changer les autres. Aujourd'hui, moi, je n'ai pas confiance aux politiciens. Ce ne sont pas eux qui sont en train de souffrir. Les enfants ne sont pas même au pays. Ils étudient à l'étranger. Quelqu'un a un mal de tête et il part à l'étranger pour aller se faire soigner. Comment il va construire le pays? Comment il va arranger des routes? Ce ne sont pas les hommes politiciens qui vont changer notre situation, notre quotidienne, mais c'est à nous, la population, de se prendre en charge.
Pour Rebecca, l'engagement citoyen est l'affaire de tous, sans oublier les femmes.
Nous sommes en train de mener cette activité, comment sensibiliser les femmes, comment les femmes doivent aussi prendre cette conscience que ce ne sont pas seulement les hommes qui sont là pour changer les choses, c'est à nous aussi de faire notre preuve de courage, notre preuve d'engagement, notre preuve de détermination de faire quelque chose.
De son côté, la lauréate nigérienne Aïchatou Issaka Ousmane encourage également les femmes à s'engager dans l'armée et les opérations de maintien de la paix.
Il faut davantage des femmes dans les opérations de maintien de paix parce que quand on parle de maintien de paix, on s'engage auprès de la population locale et qui dit population locale parle d'hommes et de femmes. Donc on a besoin aussi de femmes qui puissent prendre en charge les préoccupations de ces femmes victimes de leurs conflits, des conflits et aussi amener leurs préoccupations afin qu'elles soient prises en compte.
Mère de 3 enfants, Aïchatou Issaka Ousmane a servi dans la région de Difa et au Mali au sein de la MINUSMA. Elle souligne que les femmes doivent être présentes aussi dans les sphères de prise de décision.
Il est important aussi de faire participer les femmes dans les maintiens de paix pour qu'elles puissent avoir l'expérience nécessaire et donner leur point de vue par rapport à la question des conflits.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-92-40. Je répète, 225-58-92-40. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique.
Money I wrote, can't find my trail alone. How come working hard like slaves, still can't find nothing. Working so hard from morning, just trying to get it right. Hopes and my dreams, them calling, keeping them in my sight. Every need is a struggle to achieve. Every heart needs something to believe, yeah. So tell me, yeah, tell me where the money treated. Money I wrote, can't find my trail alone. How come working hard like slaves, still can't find nothing to say. Money come, money go,
tell me when it time to come to stay. Make my whole life happy, not just Sundays. Living comfortable Sunday to Sunday to come.
Et c'est la fin de cette édition à la mise en onde Lionel Gaïma, à la console Jonah Cummings, à la présentation Tatiana Mosso. Ainsi va le monde aujourd'hui. On reste connecté sur Facebook et sur voaafrique.com 24h sur 24. Bonne soirée à vous et restez avec nous.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako, sur 102 FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.